Nous, ce qu'on veut, c'est vraiment retourner à l'université.
J'ai pas réussi à rendre tous les DM.
Moi, je suis vite distraite.
T'as rien oublié. Effaceur, Kipex, ton goûter, t'as ton goûter.
C'est-à-dire que le plus beau cadeau qui nous a été fait depuis qu'on est petit, c'est...
La cour d'honneur.
J'ai aussi écrit un courrier au président de la République, parce qu'on sait jamais. Hein.
Ça va tout changer, parce qu'en plus, j'habite à Paris.
J'attends, est-ce qu'il y aura un autre confinement et est-ce que je vais pouvoir travailler.
90% du temps était voilà, dans sa chambre, sur son lit. Où,
J'ai foulé le sol de la cour d'honneur pour la première fois. J'ai pas été impressionnée.
S'il tressaille, on frissonne.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, nous sommes le dimanche 6 février, il est 18h, bienvenue dans Cours d'honneur. Bienvenue dans le magazine culturel de la Sorbonne. Une fois par mois, les étudiants de la plus vieille fac de France prennent place dans le studio de Radio Campus Paris pour vous raconter les meilleures histoires qui parcourent les couloirs de Sorbonne Université. C'est dimanche soir et t'as la flemme de retourner, t'as fait demain matin ? Alors écoute-nous, on compte bien te requinquer. Et ouais, bonne nouvelle, janvier est enfin fini. Fini les partiels, fini les bonnes années en boucle et fini la nuit noire à 18h. Alors aujourd'hui, même si chez toi il fait froid et moche, viens avec nous. Culture, chaleur, soleil, savoir utile et inutile, on a tout ce qu'il te faut pour repartir au taquet dans la semaine qui commence. Alors du fond de l'amphi jusqu'au sommet des chambres de Bonne, vous êtes les bienvenus dans la cour d'honneur. Je m'appelle Blanche, j'ai passé l'épreuve du feu le mois dernier, je suis donc vraiment la nouvelle animatrice de cours d'honneur. Et cette semaine, pour passer un bon moment, j'ai avec moi une équipe de champions et de championnes. Ils ont réussi à esquiver le grand méchant virus pour être avec vous ce soir. Salut Clémence.
Salut Blanche.
De quoi tu nous parles aujourd'hui ?
Whitney Houston.
Waouh ! Salut Olga.
Salut Blanche.
De quoi tu vas nous parler toi ?
Aujourd'hui, je vais parler de Cléo de 5 à 7 d'Agnès Varda.
Ok, bonjour Zoé. Pardon Zoé.
C'est pas grave, j'ai loupé le lancement parce que je me suis pas reconnue. Mais du coup, moi je vais vous parler de Paul Thomas Anderson et d'un de ses films, pas de celui de pas le nouveau, mais un de ses précédents.
Ok, donc tu nous fais retourner dans le passé, super. Elisa ?
Salut.
Salut. De quoi tu vas nous parler toi ?
Moi je vais vous parler d'Italie.
Ok, et on a aussi Thomas.
Bonsoir à tous, bienvenue dans Cours d'honneur. C'est la première de ma chronique ce soir. Je vous parle de ce qu'on foule tous les matins quand on arrive à la fac. Je vous parle du pavé aujourd'hui.
Mais pour commencer, c'est moi qui prends la parole et j'ai une annonce à vous faire.
Tout le monde ne peut pas devenir un grand artiste, mais un grand artiste peut surgir n'importe où.
Il n'y a aucune raison logique pour qu'il y ait moins de talents créateurs au XXe siècle qu'au XVIIe.
Étudiantes, étudiants, videz vos portefeuilles, grattez les fonds de tiroir, faites chauffer la carte bleue. En effet, le 13 janvier, notre cher président a tenu un discours pour clôturer le congrès de la conférence des présidents d'université. Et dans ce discours, nous avons pu entendre, pour peu qu'on décide de se coltiner une heure à l'écouter, s'écouter, que notre système d'université quasi gratuite était périmé. Frissons dans les couloirs de la fac, tremblements dans les crousses. Mais pour vous montrer à quel point cette idée est un non-sens pour notre République française, je vous propose un petit tour d'horizon historique et philosophique de la gratuité de l'université en France. Historique, pour commencer. Étudier à l'université gratuitement, une idée révolutionnaire ? Même pas. Une idée qui date d'avant la Révolution. Après la mort de Louis XIV, l'héritier a 5 ans, un peu jeune pour diriger un royaume. C'est donc son oncle Philippe d'Orléans qui s'en occupe à sa place de 1717 à 1723. C'est la régence. À ce moment-là, le régent tente plein de réformes, notamment une réforme économique, le système de l'AS. C'est un mécanisme carrément galère avec une nouvelle banque, des entreprises de commerce avec des colonies et plein d'autres trucs, mais retenons que ça chamboule l'organisation des revenus de l'État, et voilà ce qui nous intéresse, les bénéfices réalisés par les postes et les messageries du royaume seront maintenant reversés aux universités pour payer les enseignants. Conséquence, les étudiants n'ont plus à payer d'honoraires aux profs et les profs ne dépendent plus financièrement de l'humeur des étudiants. Voilà le point historique pour commencer. Les facs gratuites pour les faqueux en France, c'est depuis les années 1720, donc là-dessus, même les réacs devraient nous soutenir. Pour le point philo, je vous présente Condorcet. Mathématicien, philosophe, homme politique de la Révolution, il fait partie de ceux qui pensent l'école de la République. Et nous, de notre côté, l'école de la République qu'on a fréquentée quand on était petite et petit, nous a bien amené à glorifier la Révolution, donc on va écouter ce qu'on y disait à cette Révolution. Liberté, égalité, fraternité, jusque-là, ça va, on est au point. Mais comment on passe des idéaux à une application dans le monde réel ? Condorcet nous répond « l'école ». La liberté et l'égalité sont favorisées, améliorées par l'éducation. Quand on apprend à penser par soi-même, on ne se fait plus manipuler par des plus puissants que soi. Quand on apprend un métier, on n'est plus dépendant économiquement. Et si nous arrivons tous à être émancipés, alors, au moins politiquement, nous pouvons être égaux. Garantir un enseignement et une université gratuite pour les étudiants, c'est tenir la promesse de liberté, d'égalité, de fraternité et, j'ajoute pour le XXIe siècle, de sororité, que nous fait la République. Si on doit payer 20 000 euros pour une année de licence de droit, qui deviendra avocat? Les enfants des classes les plus favorisées. Et quand ils seront avocats, juges, magistrats, ils défendront sûrement mieux les leurs. Et qui sera là pour comprendre les réalités des classes opprimées et les défendre devant la justice? Plus grand monde, malheureusement. Et puis pour finir, coup de gueule. Comment oser sous-entendre, dans le contexte actuel, que les étudiants feraient mieux de payer de plein pot leurs études? J'y passe pas des heures, mais vous avez très certainement déjà entendu tout ça. Précarité alimentaire, précarité menstruelle, précarité psychologique, précarité financière, bref, précarité étudiante. Et ça alors même qu'une bonne partie des étudiantes et étudiants travaillent déjà pour financer leurs études. Parce que quand on n'a pas la chance d'avoir grandi dans une grande ville et des parents qui habitent à côté de la fac, faut aussi payer le logement, la nourriture, les factures, le tout dans un pays hyper centralisé qui pousse beaucoup de lycéens non parisiens à venir faire leurs études à Paris, une des villes les plus chères du monde. Et puis, regardons à l'international, puisque l'objectif non dissimulé est de, je cite M. Macron, répondre à la compétition internationale. Avons-nous vraiment, je cite encore, un modèle qui est beaucoup plus financé sur l'argent public que partout dans le monde? Bah non. On va regarder les indicateurs 2021 de l'OCDE. Je vous offre ici mon plus bel accent anglais. Indicator C2, what proportion of national waste is spent on education institutions. Donc ça nous dit qu'en 2018, la France finance ses facs à 80% par des fonds publics. Mais l'Allemagne, c'est 84%, la Suède, 87% et la Norvège, 95%. Et puis, si on regarde du côté des États-Unis, où une bonne partie des étudiants font des prêts pour financer leurs années de fac, le poids de la dette étudiante atteint fin 2021 1500 milliards de dollars selon la FED. Ça aussi, c'est un vrai poids pour l'économie. 1500 milliards de dollars qui n'iront pas dans la consommation, pas dans l'investissement et pas dans une épargne, mais dans les banques. En bref, nos études, on veut les faire, on veut tous les faire, et pour une fois, l'idéologie républicaine est carrément de notre côté. Alors non, vos réformes de privatisation de nos facs, ça passera pas. Et puis, je peux pas m'empêcher de penser à Condorcet qui nous prévient depuis son Panthéon qu'un homme qui sait, et je le cite, « odieux à celui qui exercera l'autorité ». Alors cher gouvernement, tant qu'on pourra, on va pas se priver, on va continuer à étudier, et puis au passage, à être odieux.
Hey, this is not a test. This is rock and roll.
Il y a 10 ans, le 11 février 2012, disparaissait l'une des plus grandes voix de ces dernières décennies. Sans elle, nous aurions jamais pu nous massacrer les oreilles de nos voisins avec des vocalistes tonitruants, très longues, à être persuadés de les reproduire avec autant d'intensité et de justesse.
Les années 90 sont celles des divas. Maria, Céline et Whitney, dont tous les morceaux sont braillés dans tous les karaokés du monde entier. Je vais vous emmener dans mes associations un peu décousues, mais tout de même que m'évoque l'artiste. J'avais une compile sur un CD gravé que m'avait fait ma cousine. Il y avait le titre de Lou Midi, Dance, que j'adorais écouter en boucle car il me donnait envie de danser, sourire, m'amuser. Bon dans le temps, il y a 1 ou 2 ans. Je me souviens avoir écouté un épisode de Floodcast en attendant le bus face à Gare de Lyon. Il fallait deviner les chansons faisant partie du classement top 10 des chansons qui mettent de bonne humeur. Si l'intégralité des titres cités sont effectivement plein d'entrain, je me revois acquiescer aux paroles d'Adrien Méniel disant que ce classement était, je cite, « de la merde ». Et pour cause, il manque « I wanna dance with somebody » de Whitney Houston. Et là, révélation ! Ce refrain que j'aimais tant était un sample de cette chanson. Ma vie musicale défile dans mes oreilles et je m'empresse d'écouter enfin le titre d'où Lou Midi avait pris son refrain. Quelle claque! Donc à tous les journalistes qui font ces classements, je vous en conjure, ajoutez-la, écoutez-la, mais par pitié, il ne faut plus l'oublier. Et parodié, parfois à juste titre, j'étais une grande fan de la série Glee de Ryan Murphy, sortie pile pendant mes années lycée et mes premières de vie étudiante. Suivant le parcours de ces lycéens qui chantaient, dansaient toute la journée et vivaient la vie dont je rêvais, j'ai surtout découvert les comédies musicales et des chansons cultes, dont certains arrangements sont absolument géniaux, n'en déplaise à certains. L'un des répertoires souvent utilisés était celui de la soul, car il permet de mettre en avant les capacités techniques des chanteurs, mais aussi un très grand investissement émotionnel. Et je découvre donc une chanson bouleversante aux paroles déchirantes, mais avec une musique pleine de dignité. Whitney l'interprète avec tant de conviction, d'assurance et de franchise dans les sentiments qu'elle évoque, c'en est bouleversant. Une énergie, une conviction folle s'en dégage et donne envie de s'en imprégner et chanter avec elle « I have nothing ». En 2001, sort le premier album DL5, premier cadeau de Noël marquant que je reçois, car j'étais jalouse de ma petite sœur qui, elle, avait reçu celui de Laurie. Un véritable drame, pensez-vous, donc, dont j'essaie encore de me remettre. Groupe constitué de 5 jeunes femmes ayant remporté l'émission Popstar, les L5 sont créés dans le but d'avoir nos Spice Girls françaises. Vous vous demandez probablement quel est le lien avec Whitney Houston. Je pense sincèrement que vous ne voyez pas où je veux en venir avec tous ces chemins sinueux pour arriver à destination. Je dois être l'une des seules à les associer pour une raison vraiment ridicule, mais j'essaie de vous livrer une partie des méandres de mon cerveau. L'association d'idées entre ce groupe et la chanteuse provient simplement du plus gros tube des L5. Toutes les 6 chantent qu'elles sont toutes les femmes de ta vie. Entre le disco et la dance des années 90, on a envie de se trémousser sur les pistes de danse qui, enfin, devraient bientôt être réouvertes sur I'm Every Woman. Dans les années 90, Whitney est au sommet de sa carrière et pourtant, elle sort peu d'albums. C'est parce qu'elle s'est tournée vers le cinéma et chante sur les bandes originales des films dans lesquels elle tourne, dont celui qui a changé sa vie et dont on fête la 30e année, Bodyguard. Kevin Costner doit protéger la jeune et sublime chanteuse, il tombe éperdument amoureux, c'est un amour impossible, bref, vous connaissez l'histoire et sans doute la fin avant même de l'avoir vue. Révélée en tant qu'actrice aux côtés de ce sex-symbole, la musique du film est sans nul doute l'une des raisons de ce succès phénoménal, car elle en comporte que des tubes. C'est de la puissance à l'état pur, une voix chaude et ronde dans laquelle on se sent comme dans un cocon. Les 2 morceaux écoutés précédemment sont des extraits de cette bande originale. Mais je sais que vous attendez le tube. Celui sans qui le film aurait sûrement beaucoup moins bien marché. LA chanson la plus massacrée dans les karaokés depuis 30 ans. Celle sur laquelle on s'égosille, on pourrit les tympans, l'hymne de rupture et ou de déclaration d'amour le plus kitsch de la terre. I will always love you. Oh, and I wish you joy. But above all this, I wish you love. And I will always love you. I will always love you. M'avoir accompagné dans ce périple de référence pour une artiste que nous regrettons amèrement, mais qui continuera de nous faire vibrer, de nous accompagner tout au long de toutes ces prochaines années.
Et merci beaucoup Clémence pour ce petit moment de musique et de délicatesse. Et maintenant, on vous avait promis soleil et chaleur, bah c'est maintenant, et Lisa nous raconte son été à Bologne.
À chaque fois qu'il revient, on m'apporte quelque chose. On m'écrit.
Ah oui, les cartes postales.
Vous êtes bien sur la boîte vocale de RSU. Tous nos fabuleux animateurs sont actuellement occupés. Après le bip, l'appel vous sera facturé un sourire par minute.
Fond de votre message, si vous souhaitez le modifier, faites le dièse.
Coucou RSU, c'est Lisa. Et je vais vous raconter comment s'est passé mon été en Italie, plus précisément à Bologne. Déjà, il fait une de ces chaleurs. L'air est super humide et pesant et c'est une des caractéristiques de la région. J'ai enfin fini mes examens, donc j'en profite souvent pour aller à la mer, à Cervia, voir des copains. Il y a plus de vent là-bas et les journées sont plus supportables. Et puis l'air conditionné du train pour y aller est pas désagréable. On y voit défiler les paysages infinis de la Pianura Padana. Mais il faut bien quitter le paradis des forêts de pins et du fritto misto un jour. Après tout, Bologne c'est pas mal quand même. Même si je mets du temps à m'endormir malgré le ventilo à fond au bout du lit. Et que même d'ici j'entends le bruit assourdissant des cigales. Ici, on marche sous l'ombre des arches majestueux en mangeant une glace. On peut s'allonger dans le parc des Giardini Margherita pour lire dans l'herbe quand le soleil tape pas trop. On peut aussi monter tout en haut du sanctuaire de San Luca pour regarder le soleil se coucher sur les collines. Le soir, on sort boire un spritz en terrasse et on rigole quand les étudiants tout juste diplômés chantent dans la rue à s'en casser la voix avec leurs amis et leur couronne de laurier sur la tête. C'est assez impressionnant de voir que le rythme de la ville ralentit en cette période de l'année. Les étudiants qui font de la ville un endroit festif et international sont pour la plupart rentrés chez eux. Du coup, la ville est bien silencieuse de jour. Heureusement, le soir, la ville reprend. Ça compense. Les touristes profitent de leurs vacances et il y a toujours quelque chose à faire. Par exemple, tous les soirs sur Piazza Maggiore, la place principale de la ville, ils projettent un film en plein air. Et je vous jure que c'est magique. La plupart du temps, ce sont des vieux films. Mais l'autre soir, je suis allée voir Million Dollar Baby. Il y en a vraiment pour tous les goûts. J'ai même versé une larme sous les étoiles. Il y a un dicton qui appelle Bologne « la rossa, la grassa et la dotta ». Et quand on se balade dans la ville, ça prend tout son sens. Avec ses briques rouges et son passé communiste d'un côté, et de l'autre, les bonnes odeurs qui émanent des petits restaurants et des pizzerias. La spécialité ici, ce sont les tortellini, des sortes de pâtes fourrées qui peuvent aussi se manger dans du bouillon, et le fameux ragout à la bolognaise. Et pour la dotta, qui veut dire la cultiver, il y a l'alma mater, qu'on retrouve via Zamboni et qui est la plus vieille université d'Europe. En fait, ce qui saute le plus aux yeux ici à Bologne, c'est la façon dont elle mêle superbement l'ancien et le moderne. On peut aller étudier dans des salles comme le Paleotti, où il y a des fresques d'époque médiévale qui recouvrent tout le plafond. Et je dois avouer que ça m'aidait pas à me concentrer sur mes bouquins. D'ailleurs, ça n'a rien à voir, mais l'autre jour, c'était la finale de l'Euro. Italie contre Angleterre. Je me suis faite bouffer par les moustiques ce soir-là. Et l'attente m'a paru interminable. Mais à la fin, c'était la victoire, et dans la rue, c'était la folie. Ça criait, ça chantait, ça klaxonnait. Piazza Maggiore était enveloppée dans des fumées vertes, blanches et rouges. J'ai un peu l'impression d'avoir vécu l'histoire avec un grand H. Tout ça pour dire qu'on s'y sent bien à Bologne. On s'y sent chez soi. Et dire que je raconte tout ça de mémoire. Après des mois, je viens de quitter l'Italie. Tout est encore si vif, et pourtant déjà, elle me manque. Je vous embrasse fort, et à la prochaine.
Bah du coup, salut Lisa, t'es rentrée ce week-end d'Italie ?
Tout juste, c'est ça.
Et t'as pas des trucs de dingue à nous raconter, en plus de la chaleur.
Tu nous as fait rêver là quand même. Hein.
Ouais.
En plein cœur de l'hiver, nous raconter.
Même les moustiques. J'ai eu une petite nostalgie des moustiques, j'avoue.
Ça rappelle des souvenirs. Parce que là, la Bologne que j'ai quittée, elle était froide.
Ah ouais.
Très très froide. Oh, non mais.
Et alors du coup, moi j'ai une vraie question. C'est vrai ou pas les bolognaises?
Les bolognaises, les
pâtes. Les pâtes à la, les spaghettis à la bolognaise qu'on mange en France, ça existe vraiment ou pas? C'est quoi, c'est un mythe?
Alors, c'est un peu du blasphème, hein. Je te conseille pas de sortir ça à Bologne. À Bologne, la sauce à la bolognaise, ça s'appelle le ragout. Ragout avec l'accent.
Genre comme un ragout de grand-mère qui fait pas envie, mais ça. En fait c'est bon.
C'est ça.
Ok, trop bizarre.
Et on le mange avec quoi comme pâte alors?
Je dirais les tagliatelle, mais je voudrais pas non plus.
C'est pas les spaghettis à la bolognaise.
Tu peux faire ça un peu avec toutes tes pâtes, je suppose.
Mais du coup, ça passe pas. Et le côté, genre, plus vieille fac d'Europe, c'est hyper impressionnant ou genre, t'arrives quand même à faire, je sais pas, à te concentrer et tout?
Bah, on est à la Sorbonne, on est habitué déjà. Hein.
Ouais, c'est vrai. C'est vrai qu'on est pas mal à la Sorbonne là-dessus, mais on se dit ailleurs avec la chaleur en plus, ça monte à la tête.
C'est des super beaux bâtiments et des fois, on en oublie presque qu'on doit étudier, en fait.
Bon, après, ça se saurait si Erasmus, ça servait à étudier.
Ouais, c'est ce que j'étais en train de me dire. Genre, vraiment, est-ce que tous les étudiants qui partent en Erasmus se disent « Ouais, aujourd'hui, c'est l'année où je vais le plus taffer de ma vie. »
Il y en a qui ont fait Erasmus, là, autour de la table? À part Lisa? Bon, peut-être plus tard, en tout cas. Mais c'est vrai que moi, c'est un de mes plus grands regrets, c'est de pas avoir fait Erasmus. Et pour la petite histoire, je devais partir à Bologne, d'ailleurs, faire Erasmus. Ah. Ouais, j'avais été admis. Bon, ça s'est pas fait, finalement.
Donc, t'as vraiment loupé le coche. Ah oui, il y a un autre truc, là, qui m'a fait réagir dans ce que tu nous disais, le côté des étudiants qui se baladent avec des couronnes de laurier dans la tête et en chantant, genre c'est...
Mais c'est tout le temps en fait, c'est genre tous les 2-3 mois, il va y avoir des carnavals d'étudiants qui hurlent dans la rue avec cette chanson, que, je sais pas si vous avez entendu, genre « Dottore, dottore ». Et c'est incroyable, ils sont tous déguisés. Moi je veux juste rentrer cet été et avoir ma couronne de laurier et faire la fête toute la...
Est-ce que tu peux y retourner et dire « j'étais là au moment où on a passé les examens, et filez-moi ma couronne et je viens danser »
Même si, peu importe le diplôme que tu as, t'es dottore. Okay. Donc même à la fin de ta licence, tu peux retourner, faire écouter. Moi j'ai un diplôme,
dottore.
Mais d'ailleurs dans le film d'Antonioni, Blow Up, la première scène c'est carrément ça. Et d'ailleurs, Bologne, c'est un peu le centre de la cinéphilie italienne.
Ah bah ça, c'est sûr. Enfin,
Avec, il y a la Cinémathèque qui met tout le temps de nouveaux films et c'est vraiment génial. J'ai fait ce cours d'histoire du cinéma. Incroyable.
Je rêve d'être à ta place.
Justement. Et justement, on parle de ciné maintenant.
Mais oui, justement. On parle de ciné maintenant avec Olga. Puisque conjuguer le cinéma avec la nouvelle vague au féminin, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, bienvenue à Olga qui va nous parler d'Agnès Varda et de son film Cléo de 5 à 7.
Gentlemen, you had my curiosity, but now you have my attention.
Pour découvrir ou redécouvrir Agnès Varda, celle qui vit aux côtés de Jacques Demy et de ses demoiselles de Rochefort, voici Cléo. Cléo de 5 à 7, c'est l'histoire en temps réel d'une jeune femme en danger de mort qui erre dans Paris entre 17 et 18h30. Alors qu'au début du film, nous apprenons en même temps qu'elle que Cléo est peut-être atteinte d'un cancer, le long métrage nous embarque dans une longue attente de la découverte des résultats médicaux et finalement, plutôt une attente de la découverte de Cléo elle-même. Nous nous retrouvons à suivre la jeune femme à déambuler à ses côtés dans les rues de la rive gauche parisienne. Alors que la mourante tente de se raccrocher à la vie émanant de la grande ville, elle rencontre Antoine, un soldat qui doit partir pour la guerre d'Algérie dès le lendemain, lui aussi donc en danger de mort. C'est la peur de la mort qui la pousse à vivre, et à l'image de la nouvelle vague qui crée avec peu de moyens, Cléo se réveille au sein de l'authenticité de la rue. Ce film présente un cinéma urbain, plein de liberté et émancipé des contraintes du studio. La réalisatrice dira elle-même « Ma différence avec les cinéastes de la nouvelle vague, c'est que j'ai toujours été plus intéressée par la structure d'un film que par son histoire. » Pour Cléo, il s'agissait de relever le défi d'une narration contrainte par le temps et la géographie. L'effet de déambulation est d'autant plus impressionnant quand on sait que les scènes ont été filmées dans l'ordre chronologique et pour certaines à l'heure exacte correspondant à celle de la narration. Le film peut aussi être scindé en deux. Durant les 45 premières minutes, Cléo est le sujet regardé à la fois par les passants et par nous, spectateurs, de la même façon qu'elle s'observe elle-même dans les nombreux miroirs et leurs reflets. Pourtant, durant les 45 prochaines minutes, le regard change et à la manière d'un chant contre chant, c'est Cléo qui nous dévisage. Elle arrache sa perruque et sort de la coquetterie. Ainsi, de 5 à 7, Paris passe de l'hiver au printemps et Cléo du cancer à la vie. Et la femme s'extrait de l'objet regardé pour devenir le sujet regardant. Varda dira elle-même « Le premier acte féministe d'une femme, c'est de regarder. De dire « D'accord, on me regarde, mais moi aussi je regarde. » Ce passage du regard masculin au regard féminin, Varda le représente dans la rencontre de Cléo et d'Antoine, les deux condamnés à mort. Alors qu'une conversation est habituellement filmée en chant contre chant, Agnès Varda décide de cadrer les deux personnages en un même plan. On passe donc d'un regard à sens unique à un échange égal. Cléo de 5 à 7, ce n'est pas seulement une errance dans Paris de 17 à 18h30, c'est aussi une prise de conscience engendrée par la peur de la mort, de la réelle valeur qu'a la vie. Le film constitue une réelle confrontation d'une situation à son contraire au travers du mouvement filmique. On passe de la futilité à la fatalité, de la rive droite à la rive gauche, du pseudonyme Cléo au prénom Florence, de la robe blanche à la robe noire, de la femme objet à la femme sujet, du cancer à la vie, et tout ça de 5 à 7.
Toutes portes ouvertes en plein courant d'air.
Ça fait longtemps que je me dis qu'il faut que je voie ce film et je pense qu'on pourrait peut-être se faire comme à Bologne, une grande projection tout ensemble pour regarder Cléo de 5 à 7.
Mais c'est une très bonne idée.
Et maintenant, musique.
No walls can keep me protected. Sleep, nothing in between me and the rain, and you can't save me now.
c'était Hurricane Drunk de Florence and the Machine dans Cours d'honneur, le magazine culturel de la Sorbonne sur Radio Campus Paris. C'est l'heure du débat.
Si vous n'aimez pas la mer, si vous n'aimez pas la montagne, si vous n'aimez pas la ville, allez vous faire foutre.
C'est le livre qui fait trembler le géant français des EHPAD privés, Orpea. Les Fossoyeurs, du journaliste Victor Castanet chez Fayard, accusent le leader mondial des EHPAD de graves manquements. La nourriture rationnée, le nombre de couches par résident limité, la prise en charge médicale réduite pour améliorer la rentabilité. En décrivant les pratiques d'un établissement de Neuilly-sur-Seine, il dévoile les coulisses de ce groupe privé français. Il réfute ces accusations qu'il juge mensongères, outrageantes et préjudiciables, et accuse et annonce avoir saisi ses avocats. Vu l'ampleur du scandale, l'affaire a pris désormais une dimension politique et s'est invitée à la séance des questions d'actualité à l'Assemblée nationale. On va entendre dans l'ordre des prises de parole de Caroline Fiat, de LFI, Olivier Véran, ministre de la Santé, Damien Abad, président du groupe LR, Christine Pires-Beaune, députée socialiste, et la réponse de Jean-Christophe Romercy, directeur général Orpea France sur BFM TV.
Une maison de retraite est plus rentable qu'un centre commercial. Avez-vous conscience d'être complice de cette escroquerie épouvantable ?
Et à la lumière de ces conclusions, je verrai s'il y a lieu de diligenter une enquête de l'inspection générale sur l'ensemble du groupe pour vérifier quelles sont les procédures en vigueur et quelles sont les conditions avec lesquelles ils prennent en charge.
J'ai mon père qui est en EHPAD, c'est une souffrance au quotidien parce que quand vous n'avez pas la possibilité tout simplement d'être sûr que voilà, tout se passe bien et qu'on puisse s'occuper de lui comme chacun le mérite, eh bien forcément c'est difficile. Pour mettre les choses sur la table, il faut du financement, de la dignité pour créer un parcours de vie jusqu'à l'EHPAD. Et ensuite, en EHPAD, il ne faut pas que ça soit un mouroir. Une personne qui vit en EHPAD, elle a le droit de voir sa famille, d'être nourrie, de se laver, d'être habillée. C'est fondamental.
On pourrait pousser les portes des EHPAD comme on peut pousser les portes des prisons aujourd'hui, sans téléphoner avant, sans annoncer notre visite.
Il n'y a jamais eu la moindre restriction. Il n'y a jamais eu le moindre rationnement. Cela ne correspond pas à nos directives, cela ne correspond pas à nos valeurs, tout simplement. Nous ne sommes pas exempts d'une erreur, nous ne sommes pas exempts de quelque chose qui n'a pas fonctionné.
Bah là, on l'a entendu, les différents politiques, pour une fois, semblent plutôt d'accord sur le fait qu'il y a sûrement un problème quelque part avec cette gestion des EHPAD.
En même temps, on s'en doutait un petit peu. Enfin, je sais pas vous, mais c'est vrai que moi, ça m'a pas surpris de savoir que oui, dans les EHPAD, il y a de la maltraitance.
Ouais.
C'est quelque chose qui a été souvent dénoncé. Je sais pas si vous, à titre personnel, ça vous est arrivé d'en faire l'expérience, d'avoir un de vos grands-parents, arrière-grands-parents, qui a fini dans un EHPAD. Personne, non.
Non, je crois. Non.
Bon, ben moi, c'est le cas de ma grand-mère aujourd'hui. Elle se trouve dans un EHPAD de province, dans les Pyrénées-Orientales, et bon, ben. Ils sont assez bien traités, de ce que j'en sais en tout cas, mais elles sont à deux dans la chambre, et c'est vrai que c'est peut-être pas la façon dont ma grand-mère s'imaginait finir sa vie, terminer ses jours. Elle a 86 ans, ça commence à faire quoi. Enfin, je sais pas comment est-ce que vous voyez vieillir.
Bah clairement pas retourner comme une enfant à partager ma chambre et devoir toujours dépendre à fond de d'autres personnes.
Après, moi, je prends une situation que là, je suis un peu en plein dedans. Il y a des personnes qui ont besoin de soins quotidiens aussi et qui ont besoin d'être encadrées, d'avoir un accompagnateur. Et ça demande beaucoup d'argent que beaucoup n'ont pas. Et les EHPAD, c'est très cher, donc ça demande des emprunts pour y aller. Et il y a des personnes qui refusent d'y aller, quand bien même il n'y a pas d'autres solutions aussi. Donc peut-être, j'aime pas dire ce mot attractif, mais là, dans la situation à laquelle je pense précisément... Pour l'instant, même si ça ne fait pas rêver, ça reste quand même une solution de repli et une véritable aide médicale qui peut être apportée et avoir des bons soins plutôt que d'être tout seul.
Ouais, mais là, on parle d'un truc genre en moins pire. Et on parle. Enfin,
oui,
genre,
c'est.
Certes, ils sont vieux et nous, on est jeunes et on ne pense pas trop aux générations les plus âgées, peut-être à tort. Mais il y a une question de dignité qui est quand même énorme. On peut dire que ce n'est pas génial. Enfin.
Mais justement, tu disais tout à l'heure, oui, j'aimerais pas me retrouver à deux comme un enfant, etc. Mais justement, ce qu'il faut avoir conscience, c'est que, comme un film comme The Father de Florian Zeller a pu le montrer, un vieux, c'est un enfant. il a besoin de soi, de soins constants, à tout moment, à toute minute, etc. Et en fait, il faudrait presque un parent qui soit là. Donc, qu'il y ait une infirmière qui passe une fois toute la journée, enfin, une fois dans la journée, etc., c'est juste pas suffisant. Et donc, en fait, quand le patron, là, je sais pas qui, il dit...
Remercie.
Il dit, oui, c'est une erreur, c'est peut-être une erreur.
Il plaide l'erreur humaine. Il dit, ça arrive des erreurs humaines. En fait, il se défend du caractère systémique, du fait que la direction impose trois couches par jour par résident, du fait qu'il y ait de l'alimentation qui soit limitée. Il dit, ça, c'est pas vrai. Il y a pas de réglementation qui impose à tous nos directeurs d'établissement d'imposer ça.
Mais d'ailleurs, je trouve ça super symptomatique parce que, enfin, là, on parlait des universités au début, mais c'est la même chose en fait. À partir du moment où tu privatises, bah, il y a forcément une dégradation des choses. Et ils veulent nous faire croire que ça va être mieux, la libre concurrence, etc. Mais on le voit bien à chaque fois que ça n'est pas mieux. Donc, je ne comprends pas pourquoi ils continuent comme ça. Bah, tout simplement parce que c'est l'argent, il va dans leur poche à eux, en fait.
Alors après, là, il y a une question de rentabilité. J'aime beaucoup le fait que tu vois toujours les choses par le prisme du cinéma. Et The Father était vraiment un très bon film qui mettait en avant qu'effectivement, certains ont besoin de ça. En permanence.
Le prisme du capital.
C'est aussi mon autre problématique dans ma vie.
Mais il s'avère que oui, là, pour le coup, dans les EHPAD, en plus dans l'établissement dans lequel Victor Castanet a enquêté pendant un an et demi, c'est un établissement qui se trouve à Neuilly où les chambres sont haut de gamme. Elles sont entre 6 000 et 12 000 euros par mois. Ce qui est énorme, effectivement. Très peu de Français.
Par jour, quand tu payes 10 000 balles.
Ah, c'est démentiel. Quand on sait que, quand on sait qu'en France, il y a eu 38 millions de personnes qui ont reçu la prime inflation. Le chèque de 100 euros d'Emmanuel Macron a été attribué à 38 millions de personnes. Et ce chèque était attribué à toutes celles qui gagnaient moins de 2 000 euros par mois. Ça veut dire qu'il y a 38 millions de Français qui gagnent moins de 2 000 euros par mois. Et là, on demande des chambres qui sont à 6 000, 7, 12 000 euros par mois. C'est démentiel. Après, pour la question du service public, ben, c'est compliqué parce que concrètement, il y a de l'argent public, et c'est d'ailleurs ça qui est mis en avant dans le livre Les Fossoyeurs, c'est qu'il y a de l'argent public qui est donné aux EHPAD parce que les soins qui sont apportés chaque jour sont payés par la sécurité sociale française. Ça veut dire que c'est tout ce qui est à côté des soins, en fait, qui est financé par le loyer de la chambre, on va dire. Mais on parle là pour le groupe Orpea de 300 000 euros annuels qui sont versés par l'État, par la sécurité sociale, pour participer aux soins des résidents. Et en fait, on se dit, mais si c'est autant mal fait, effectivement, pourquoi maintenir ce genre de dispositif, pourquoi maintenir ce genre d'établissement en place? Mais la vraie question, c'est est-ce qu'aujourd'hui, on est prêt à revenir sur un modèle de société qui existait il y a de ça 50 ans, où en fait, les vieux, ils mouraient à la maison, on restait en famille. C'est quelque chose qui existe pas mal d'ailleurs en Italie, peut-être que Lisa, t'as connu ça, où y a plusieurs générations qui habitent sous le même toit. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qui est plus du tout possible en France. En tout cas, on n'accepterait pas. Même si j'adore ma grand-mère, mais jamais de la vie, mes parents, ils accepteraient de la revoir redébarquer à la maison.
En vrai, j'ai passé le week-end avec un ami qui, lui, pour le coup, est retourné vivre avec sa grand-mère. Où il est dans une situation où elle a plus de 80 ans. Bah, lui, il a genre 24 ans et pas de thunes. Et elle a une maison et de l'espace. Donc, en fait, ils cohabitent. Alors, ils sont séparés la maison. Et il n'est pas avec elle en permanence, mais il passe la voir tout le temps. Au moindre problème, il entend. Et genre, pour lui, c'est un bon plan parce que évidemment, il a pas trop de thunes.
Ça s'appelle du viager, en fait. Hein.
Oui.
Non. Mais non, le viager, c'est acheter pas cher en versant des...
discute avec lui, genre le viager...
Non, c'est la colocation intergénérationnelle.
C'est exactement ça, et c'est bénéf pour tout le monde. Donc ça leur permet aussi de pas... de pas la mettre dans un EHPAD, parce que genre, moi, ce qui me choque vraiment, c'est... le fait de plus avoir accès à sa propre dignité. J'ai été beaucoup hospitalisée plus jeune, et même encore il y a 2-3 ans, et à chaque fois, le truc le plus lourd, c'est pas les soins, c'est pas... Enfin, dans mon cas, en tout cas, même si j'avais des soins assez lourds, c'est le fait, genre, ça va être un peu dégueu, mais devoir se retrouver à sonner pour pouvoir chier dans un bassin, que quelqu'un te regarde faire en croisant les bras le temps que tu finis, c'était en mode... Putain, mais je pensais que j'étais devenue genre adulte, un être humain qu'on considérait que j'avais du respect. En fait, non, les gens ont pas le temps et ils te pressent dans tous les sens. Genre, t'es en train de faire ta toilette comme tu peux et les gens ouvrent la porte et laissent tout ouvert. Et bah en fait, oui, à partir du moment où t'as peu de personnel, tout le côté humain de la médecine, on n'est plus dans du genre.
C'est plus des patients, ça devient des clients.
Ouais, c'est ça. Et même les soignants, ça leur fait du mal parce que genre. Tu deviens pas médecin ou infirmier ou infirmière parce que t'as envie de faire des pansements, mais aussi parce que t'as envie de faire de l'humain. Et
Ouais, d'ailleurs, son livre, il a écrit en ayant été alerté par des salariés d'Orpea. C'est des salariés qui l'ont contacté, qui lui ont raconté ça en se disant « c'est pas normal ce qu'on fait ». Et les salariés ont témoigné à visage découvert disant « c'est des ordres directs de la direction qui nous imposent cette maltraitance là qu'on impose aux résidents ». Et c'est pour ça qu'après, il a rencontré les familles, Victor Castanet, il a rencontré les familles des résidents qui ont également témoigné de ce genre de situation là. Mais c'est vrai que c'est peut-être pas les soins le plus dur pour toi, mais c'est vrai que c'est tout ce qui est à côté, la dignité, tu disais, ouais, c'est un mot qui est important, ouais.
Et même si on leur refuse ça en fin de vie, où ils ont déjà plus beau, et en plus ça sera forcément, je l'espère, pour vous, pour nous un jour, si on arrive à devenir vieille et vieux.
Comment vous voyez vieillir d'ailleurs, Olga, on l'a pas entendu. Comment est-ce que t'aimerais terminer ta vie?
Moi justement, j'étais assez d'accord avec ce que tu disais, dans le sens où c'est totalement un problème d'argent ce qui se passe dans les EHPAD. Mais je pense que le fait que ce soit les salariés et pas forcément les proches qui est alarmé, c'est qu'en fait les EHPAD, c'est quand même un moyen de se dédouaner et se décharger de cette responsabilité qu'on a. Et en fait, on pense plutôt à la manière dont on peut se détacher de ça plutôt que aider la personne en question. Donc moi-même, avant ces problèmes-là, c'était pas un truc qui me faisait rêver, enfin comme peu de gens, je pense. Donc je sais pas du tout, mais en tout cas, les pads, c'est effectivement pas un truc que j'envisageais.
Espérons qu'on puisse terminer nos jours dans une grande maison à Bologne, en Italie. Mais le concept de colocation intergénérationnelle de ton amie, Blanche,
c'est pas mal, hein. Je pense vraiment qu'il y a un truc, mais ça veut dire qu'il faut faire des enfants avant, quoi.
Ou ne pas en faire du tout, hein. Ça reste une option, on l'oublie un peu trop souvent.
Ouais, mais comment tu fais de l'intergénérationnel si t'as pas produit des générations?
Produire des générations, on est sur Radio Campus Paris, on aime le romantisme, on aime l'amour, et voilà. On produit des générations, j'adore.
Non, mais c'est le truc. Puis même, enfin, ce que tu disais sur le fait de pouvoir se... Enfin, que les familles... que ce soit pas les familles qui aient alerté en avant, enfin, avant les salariés, je pense que... Même quand parfois t'as pas le choix parce que en fin de compte on choisit un peu nos vies mais pas tant que ça, et donc parfois tu te retrouves dans des rythmes que tu peux pas tenir et dans lesquels tu peux pas intégrer le fait de prendre soin d'une personne âgée ou dépendante ou en situation de handicap ou quoi que ce soit. En fait, doit y avoir aussi une grosse culpabilité de se dire c'est la seule solution que j'ai trouvée et ça l'a fait mourir. Et est-ce que du coup, avec cette culpabilité-là, tu te sens la force d'aller attaquer en justice un énorme organisme comme
Orpea.
Comme Orpea.
Son titre a dévissé en bourse, d'ailleurs, très fortement.
Ouais. Donc peut-être que maintenant, ce sera plus facile.
On verra, on verra.
4,40 donc quand même. Enfin,
bon, merci en tout cas pour la discussion. Puis maintenant, Age of Consent, The New Order.
Thank you.
C'était Age of Consent de New Order. Vous êtes toujours dans Cours d'honneur, l'émission de Radio Sorbonne Université sur Radio Campus Paris. Et maintenant, c'est la chronique cinéma de Zoé.
Il est l'heure de se réveiller.
Moi, je trouve qu'être ami avec une hyène, souvent, c'est plus important qu'être ami avec des vrais amis.
À l'occasion de la sortie du nouveau film de Paul Thomas Anderson, Licorice Pizza, Zoé nous parle d'un film qu'il a sorti il y a 20 ans, Punch Drunk Love.
On dirait de l'autiste qu'il a des idées fixes qui l'animent jusqu'à l'obsession. On pourrait en dire de même de l'amoureux. Mais il ne s'agit pas tant d'obtenir ce qui est désiré que de rétablir un équilibre brisé par un environnement hostile. Pour Barry dans Punch Drunk Love, personnage principal, tomber amoureux, c'est comme jouer de l'harmonium. Inspirer le mauvais air ambiant et en expirer un air doux. Barry accumule les coupons, Barry accumule les péripéties, mais surtout, Barry accumule les émotions refoulées qu'il ne trouve mots pour s'exprimer. Il faut alors pleurer et exploser les objets à coups de poing. Les humains lui tapent sur le système, ils pullulent, ils insistent, ils essaient de faire tenir une altérité qu'ils ne comprennent pas dans des arcs narratifs qui leur sont lisibles. La famille, la fête, les rituels, l'amour découpé en rendez-vous, en étapes chronologiques, en protocole. Mais l'amour de Barry n'a pas de sens, il n'a même pas de sol. L'ombre noire qui fuyait sur un mur blanc la sale histoire de téléphone rose prend de l'épaisseur et devient contre-jour, envers et contre tout, à contre-courant. Barry travaille dans la vente de gros. Il n'est donc pas si incongru qu'il achète à lui-même, pour lui-même, des centaines de pots de pudding dont les coupons permettent de gagner des miles d'une compagnie d'aviation. Ces gestes d'accumulation, aussi consuméristes soient-ils, se transforment en actes poétiques surréalistes. Tirer du flanc un vol vers une destination de rêve. Voici un acte politique. Emmerder le système en jouant au con, puisqu'il nous considère ainsi. Tel est pris qui croit prendre, tel est pris qui se méprend sur la nature humaine. Qui croit trouver une oreille pour l'écouter, trouve une main pour le voler. Pour Barry, il n'y a harmonie que si respiration. Il y a des objets partout, tout le temps, et des humains par tous les temps. Barry casse tout pour faire du vide autour de lui, élargir les cadres, alors même que la caméra le maintient dans un coin, à l'écart, dès le début du film. Et lorsqu'elle essaie de l'intégrer à un espace plus large, c'est pour découvrir la présence d'un manque palpable qui creuse son sentiment entretenu de solitude. Alors Barry, quand il casse, brasse du vide. Comme un harmonium. Le seul objet qu'il ne casse pas et qu'il répare lui-même, c'est l'harmonium. Il se bricole une histoire d'amour. On pourrait répondre à Baza que la caméra saisit les désirs comme des accords joués sur un harmonium bricolé, réparé au scotch de déménageur, et tombé là complètement par hasard.
Merci beaucoup Zoé. Maintenant, Thomas, c'est ton tour. Tu vas nous présenter cette nouvelle création toute fraîche.
Shut up.
Ce qui est inconnu ou mal connu excite l'imagination.
Il brûle parce qu'il y a des tas de journalistes qui viennent venir et qui ne sont pas venus.
Ah bon ? Quand ils disent qu'ils viennent, ils viennent pas ?
Le pavé de culture, les savoirs inutiles donc complètement indispensables de Thomas. Chaque mois, tu nous racontes une anecdote méconnue de l'histoire de la Sorbonne. Et pour le premier épisode, il fallait bien commencer par ça, tu nous racontes l'histoire des pavés de la Sorbonne.
Et oui, quand on évoque le nom de la Sorbonne, on pense bien sûr à Richelieu. La majestuosité de la plus vieille université de France, qui prétend même parfois être la plus vieille université du monde. On pense à son grand amphithéâtre, l'amphithéâtre Bachelard, Descartes, Guizot, Lefebvre, Houry, Richelieu, Turgot, promis. Premier épisode, on parlera de chaque fresque qui se trouve dans chaque amphi, c'est palpitant, je vous le promets. On pense également à ses prestigieux étudiants. Claude Bernard, Henri Bergson, Jean-Jacques Ampère, Honoré de Balzac, Simone de Beauvoir, Marie Curie, Georges Bataille, Claude Lévi-Strauss, Raymond Queneau, Jacques Derrida, Jean-Paul Sartre. Oui, mais moi, aujourd'hui, je vais vous parler de tout ce que chacun d'entre eux a foulé, le pavé. Dans le temps de la Sorbonne éclatée. Alors le pavé, eh bien on le connaît, hein, c'est ce cube de grès, à peu près 10 cm de côté, il pèse environ 4 kg. Il faut savoir que le quartier latin où se trouve la Sorbonne en était complètement pavé en 1968. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Petit retour en arrière. Au Moyen-Âge, les rues de Paris sont en terre battue, boueuses, crasseuses, avec une rigole au milieu pour évacuer les déchets et les eaux usées et tout ce qu'on balance par la fenêtre à cette époque. Gadoue, poussière, déjection, moisissure, autant vous dire qu'on comprend pourquoi c'est en France qu'on a inventé le parfum. En 1184, le roi Philippe Auguste, qui a le nez fin, décide d'assainir tout ça. Il prend de la très grosse pierre, qu'il fait disposer les unes à côté des autres, un peu comme les Romains, sous la forme d'un gros puzzle. Au XIVe siècle, On remplace par des pavés un peu plus petits, donc un peu plus simples à déplacer, à remplacer, à réparer. D'ailleurs, c'est Paris hein, qui est la ville pionnière du pavage des rues. Mais ça pose deux, trois problèmes. D'abord, les roues de carrosse butent sur chaque irrégularité, les chevaux se fatiguent, ça fait un boucan pas possible. Alors, dans le courant hygiéniste de la fin du 19e siècle, eh bien, on copie les Anglais, on pose des pavés en bois, comme à Londres. Oui, mais le bois c'est cher, ça gonfle avec l'eau, ça pourrit, c'est plein de microbes, on demande de les essuyer tous les jours, bref, c'est pas terrible, alors en 1938, on s'en débarrasse. Et à ce moment-là, eh bien la solution est trouvée dans un petit pavé en pierre ciselée qu'on appelle le pavé piqué. Il est toujours un peu bruyant, certes, mais il est inusable, on glisse moins, et en plus son installation est assez simple, on nivelle le sol avec une couche de sable, et puis on aligne les pavés, c'est ce pavé qui entre dans l'histoire de la Sorbonne le 3 mai 1968. Ce jour-là, la police tente d'évacuer la Sorbonne. Notre fac est en pleine révolution estudiantine. On construit des barricades, retourne les voitures, les panneaux et les pavés arrachés à la chaussée. Et c'est là que les étudiants de 68 le remarquent. Les pavés reposent sur du sable. Et on le sait, mais 68 existe aussi sur les murs. Tout le quartier latin est recouvert des messages courts et percutants. Et là, eh bien, l'image parle aux étudiants. Le pavé, c'est le symbole de la police, de l'autorité qu'on veut renverser du général de Gaulle. Le sable, c'est la plage, le plaisir, la liberté. Une expression qui deviendra culte et née ce jour. Sous les pavés, la plage. Et les semaines qui suivent sont un enchaînement de violents affrontements avec les forces de l'ordre, des centaines de blessés, même des morts. Alors aujourd'hui, les pavés sont systématiquement remplacés par de l'asphalte. On retire chaque année 10 000 tonnes de pavés cubiques. Le plus souvent, on les revend à des constructeurs immobiliers. Mais pour les nostalgiques parmi vous autour de la table, sachez qu'on peut les acheter. Ces pavés, ça coûte entre 60 et 80 euros chez les marchands de souvenirs.
Et si on veut pas les acheter, il y en a toujours quelques-uns dans la cour de la fac, donc pour nos prochaines révoltes estudiantines, vous saurez
où. On y pensera, ça, on le dira, ça a commencé ici.
Exactement.
Sur Radio Campus Paris, dans Cours d'honneur, l'émission de Radio Sorbonne.
Exactement. La douche, un moment avec un but apparemment très clair, se laver, mais c'est pas le cas pour tout le monde. Ici, nous avons Nathan, qui profite de sa douche pour se poser les questions tout à fait essentielles à notre existence.
Sous la douche.
Ah bah c'est pas souvent qu'on voit ça.
Quoi donc ?
Bah le président il s'est fait gifler par un gars en déplacement. Genre comme ça quoi.
Et ça te fait rigoler ? Tu sais que c'est quand même ton chef d'état qui est victime de plus qu'un manque de respect, mais d'une violence envers lui. C'est le symbole de ta nation auprès des autres nations dans le monde, c'est le représentant.
Oh le rabat-joie, ça va, on peut rigoler deux secondes.
J'avoue que j'ai esquissé un sourire, ok.
Et puis en soi, est-ce que c'est vraiment mal ? Non mais je veux dire. Comment tu peux dire de quelque chose que c'est mal ? Y a rien de posé et d'écrit qui nous dit que telle ou telle chose, ça va dans bien ou ça va dans pas bien, tu vois ?
Si, ça s'appelle la loi. Tu commences sérieusement à me faire flipper, tu sais ?
Mais non, mais... Je veux dire même la loi. Parfois, y a des choses qui vont être jugées comme mauvaises, parfois comme bonnes, alors que c'est la même chose, c'est juste... Ça dépend du contexte.
Pour moi, si le contexte est pas le même, la chose est pas la même.
Bah, la gifle qu'a pris Macron, c'est pas bien, je suis d'accord. Mais tu mets la même gifle à un voleur à la tire. Peu de gens vont dire quelque chose, alors que pourtant c'est pareil, c'est la même action.
Ouais, je suis pas tout à fait d'accord, mais vas-y, continue. Va au bout de ta réflexion. Je sens que tu t'enfonces et ça devient marrant.
Bref, ce que je veux dire, c'est que les méchants, bah pour eux, ils sont pas méchants. Tu captes ? Pour eux, c'est nous les méchants et eux les gentils. En vrai, tu peux pas être véritablement méchant de cœur, je pense. Si tu considères que ce que tu fais, c'est mauvais... Tu peux pas le faire volontiers sans y être contraint.
Sauf si tu penses que l'équilibre bon-mauvais de ton action est assez positif.
Non, pour moi, si tu sais qu'il y a un minimum de mauvais dans ton action, et que t'es en rien contraint de la réaliser, tu le feras pas.
Malheureusement, je crois que ça, c'est le monde des bisounours, Mino.
Par exemple, tu voles une voiture alors que t'en as déjà 5 pour toi. T'as zéro souci. Pas de souci d'argent, pas de déplacement, pas de souci de vengeance, rien. Juste, pourquoi ?
L'adrénaline. Tu sais, ça existe, les kleptomanes.
Quoi ? Pourquoi tu me parles de Cléopâtre ? On n'est pas en Égypte antique, là, qu'est-ce que tu racontes ?
Non, kleptomane, pas Cléopâtre, débile.
C'est quoi ?
Les gens kleptomanes, ce sont des gens qui ne peuvent pas s'empêcher de voler des choses. Même si ça ne leur sert à rien du tout. Et que ce soit cher ou pas. Juste parce que ça leur fait du bien, quoi.
Ouais, mais genre, ils culpabilisent quand même derrière. Tu vois, ils savent que ce qu'ils ont fait, c'est pas bien. Ils le font juste parce qu'ils peuvent pas s'en empêcher. Les méchants de films, ça existe pas en vrai. C'est ça que je veux dire.
C'est vrai. Je crois que t'as raison.
C'est vrai ?
Bah ouais. J'ai jamais vu de mec sans nez avec une baguette magique ou de mec asthmatique avec un sabre laser rouge dans la rue, perso.
Waouh, ce que t'es marrant.
Si les gens étaient méchants juste parce qu'ils n'ont pas le choix, je pense que le problème serait réglé depuis un bon moment. Et puis, t'as les tueurs en série aussi. Il y en a eu plein dans l'humanité. Ils faisaient ça juste pour le plaisir, tout en sachant que, évidemment, ce qu'ils répandaient, c'était juste le chaos et la peur.
Ok, ok, mais eux, ils aiment le chaos, donc ça les dérangera jamais.
Pourtant, ils sont bien dérangés, là-haut. Bon, l'avocat du diable en intérim, t'as fini pour aujourd'hui ?
Et puis, ça vient d'où, la méchanceté ? Tu crois que c'est un gène ? Genre, dans notre ADN, et si t'es méchant, bah tu seras méchant toute ta vie ?
Dans ce cas, ça marche avec toutes les autres caractéristiques. Si t'es bête, tu seras toujours bête. Si t'es bon en calcul, tu seras toujours bon en calcul, etc.
Donc en soi, on pourrait savoir si une personne est mauvaise même avant qu'elle naisse ?
Et dans ce cas, on vit dans Minority Report. Y a plus qu'à élaborer le programme qui te permettra de repérer les mauvaises personnes. T'en profiteras pour trouver en même temps ton gène du sens de la ponctualité ?
Ah non, mais même quand c'est pour aller boire un verre, je suis en retard, c'est fou ça, j'y arriverai jamais.
Son manque de foi me consterne.
Vous avez écouté Sous la douche, un podcast de Nathan pour Radio Sorbonne Université.
Eh ben merci beaucoup Nathan. C'est la fin de cet épisode de Cours d'honneur, merci de l'avoir suivi. Vous nous retrouvez sur les réseaux sociaux en passant par la page RSU, Radio Sorbonne Université. Merci à Radio Campus Paris de nous avoir accueillis. C'était Blanche Monin à l'animation, Thomas Schnell à la mise en onde. On se retrouve le mois prochain et puis d'ici là, n'oubliez pas, tout est possible, surtout avec un peu de pavé. Salut !
Nous, ce qu'on veut, c'est vraiment retourner à l'université.
J'ai pas réussi à rendre tous les DM.
Moi, je suis vite distraite.
T'as rien oublié ? Effaceur, Tipex, ton goûter, t'as ton goûter ?
C'est-à-dire que le plus beau cadeau qui nous a été fait depuis qu'on est petit, c'est...
La cour d'honneur.
J'ai aussi écrit un courrier au président de la République, parce qu'on sait jamais. Hein.
Ça va tout changer, parce qu'en plus, j'habite à Paris.
J'attends, est-ce qu'il y aura un autre confinement ? Est-ce que je vais pouvoir travailler ?
90% du temps était voilà, dans sa chambre, sur son lit ou...
J'ai foulé le sol de la cour d'honneur pour la première fois. J'ai pas été impressionnée.
S'il tressaille, on frissonne.